d'Amsterdam, 10h10 à Paris.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, bienvenue si vous nous rejoignez dans un instant, ce sont vos questions à la rédaction, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI, vous connaissez le principe, hein. S'il vous manque des clés, des questions, des repères pour mieux comprendre toute l'actualité, eh bien n'hésitez pas, rejoignez-nous, vous pouvez directement parler aux spécialistes ici à la rédaction, mais aussi à nos correspondants, nos envoyés spéciaux, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le courrier électronique, et oui, ça existe encore, appel au pluriel, appel@rfi.fr. C'est vrai qu'on reçoit moins de courriers électroniques et de plus en plus de réactions sur la page Facebook de l'émission, mais en tout cas, n'hésitez pas, et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler. Dans 30 minutes, nous reviendrons ce matin sur l'épidémie d'Ebola. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Hier, l'OMS a communiqué son dernier bilan, près de 2500 personnes sont mortes du virus en Afrique de l'Ouest depuis le début de l'année et les projections de l'ONU prévoient 20 000 nouvelles infections d'ici au mois de décembre. Il y a donc urgence. Hier, Barack Obama a annoncé l'envoi de 3 000 militaires en Afrique de l'Ouest. Ils participeront notamment à la construction de nouveaux centres de traitement. Demain, journée importante puisque le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence. Alors que vous inspire cette mobilisation internationale? Nous attendons vos commentaires et vos témoignages, vous qui vivez en ce moment et qui nous écoutez en Afrique de l'Ouest, 33 9 693 693 70. Première question, elle nous vient du Tchad. Nous allons à N'Djamena, la capitale. Bonjour Bourgeois. Allô, allô, Bourgeois est-il avec nous? Alors, on a perdu Bourgeois, je me rassure, est-ce que le standard fonctionne? Est-ce qu'on a... Alors, on me fait un petit signe que oui, on va essayer de régler ça, évidemment, hors antenne. On a déjà eu hier le même petit souci avant de démarrer l'émission. Ce sont des choses qui arrivent, mais si on n'a pas Bourgeois, je vais donc me faire le porte-parole de notre auditeur. J'espère qu'il a l'oreille collée au transistor pour écouter, évidemment, les explications et les réponses de Léa-Lisa Vesterov, qui est la correspondante permanente de RFI à Kinshasa. Bonjour Léa-Lisa.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors, Bourgeois a posé une question pour le moins pertinente. Il nous dit, que sait-on des incursions des militaires burundais dans l'est de la République démocratique du Congo? Sont-elles avérées, ces incursions? C'est vrai que la question mérite d'être posée, puisque le gouvernement congolais, lui, dément la présence de soldats burundais, tout comme d'ailleurs les autorités de Bujumbura, tout comme même la MONUSCO, la mission des Nations Unies. En revanche, la population, elle affirme le contraire. Que sait-on exactement, Léa-Lisa?
Ce qu'on sait d'abord, hein, c'est qu'a priori, il ne s'agit pas d'incursion, mais bien de soldats burundais stationnés en République démocratique du Congo, à moins de 6 km de la frontière avec le Burundi environ, selon des dizaines de sources locales. Hein. Pour ma part, j'ai pu voir 5 hommes en treillis aux couleurs du Burundi, posté à la sortie du village de Kiliba, à une vingtaine de kilomètres au nord d'Ouvira. J'y étais il y a une quinzaine de jours pour un reportage. Il y avait aussi 3 grandes tentes militaires, donc clairement, ces hommes sont stationnés là en permanence, comme l'ont d'ailleurs confirmé les gens du village. Encore une fois, selon les gens du village, ce phénomène n'est pas nouveau. Hein. Ça fait en fait au moins 3 ans qu'il y a des soldats burundais stationnés dans ce village autour de ce village de Kiliba. Mais la différence, c'est qu'entre 2011 et aujourd'hui, selon plusieurs sources, on est passé de moins d'une compagnie, à savoir 150 hommes environ, à plus d'un bataillon, à savoir entre 750 et 900 hommes, basés essentiellement autour de ce village de Kiliba, notamment dans les bâtiments qui abritaient du personnel d'une sucrerie aujourd'hui désaffectée, mais aussi le long de la rivière Ruzizi qui sépare le Burundi du Congo. Donc 750 à 900 hommes, vous le voyez, ce n'est pas rien.
Effectivement, présence donc confirmée. Quelle pourrait être la mission de tous ces soldats?
Alors là encore, aucune confirmation officielle. Hein, à partir du moment où, vous le disiez, le gouvernement congolais ni le Burundi ne reconnaissent la présence de ces hommes en tenue militaire burundais, difficile d'avoir d'autres confirmations. Mais en tout cas, selon plusieurs sources, là encore, et des rapports sur la question, il y aurait eu en fait un accord signé entre Kinshasa et Bujumbura en 2010 pour autoriser en fait les militaires burundais à faire des opérations sur le territoire congolais contre des positions des rebelles du FNL, dont on sait qu'ils se cachent depuis des années côté congolais dans la plaine de la Ruzizi, non loin de la frontière avec le Burundi. Alors pourquoi les autorités congolaises et burundaises démentent là encore l'existence de ces opérations? Elles pourraient le confirmer, difficile à dire. Certains experts estiment que le dire officiellement pourrait mettre le Congo dans une position délicate vis-à-vis du Rwanda, vu qu'il refuse a priori à son voisin le même droit, à savoir celui de poursuivre les rebelles Hutu rwandais, des FDLR cette fois, sur le territoire congolais. Lors de ma visite à Uvira, en tout cas, il y avait une rencontre officielle cette fois entre les états-majors des deux armées, donc du Burundi et du Congo. Ouais. Il n'y a rien de plus.
Ouais, d'accord. Mais la traque contre ces rebelles burundais du FLN serait la seule raison pour expliquer la présence de soldats burundais à l'est de la RDC?
Non, sans doute pas. Il y a d'autres pistes qui sont évoquées. Certaines sources notamment qui affirment qu'il n'y a que peu d'opérations militaires finalement en ce moment qui ont lieu contre les FNL, mais beaucoup de trafic qui aurait lieu entre les deux pays, notamment du trafic d'or, de bois ou même de pagne, et qu'une partie de ces hommes armés pourrait superviser. Dans son rapport de décembre dernier, d'ailleurs, le groupe d'experts des Nations Unies estimait que ce trafic de minerais vers le Burundi était en augmentation, ce que dément fermement Bujumbura. Une autre piste est aussi celle de formation qui pourrait être accordée à des hommes démobilisés sur le territoire congolais. Aucune confirmation là encore, et ce qui est sûr, c'est que de parler ouvertement de cette présence militaire burundaise en RDC met en danger ceux qui le font. Deux activistes qui ont témoigné à notre micro disent avoir reçu des menaces. C'est donc visiblement un sujet très délicat. Juan, et la mission des Nations Unies en RDC a promis de refaire une enquête.
Affaire à suivre, j'allais le dire, effectivement. On a déjà eu l'occasion d'en parler vendredi dernier avec un auditeur dans la Libre Antenne. On pourra évidemment prolonger ce débat vendredi prochain, 33 9 693 693 70. Bourgeois, est-ce que vous avez entendu toutes les explications de Léa, Lisa, malgré les problèmes de téléphone que vous avez eus?
Oui, j'ai dû écouter, ça m'a vraiment servi.
Bon, si ça vous a servi, tant mieux. Merci à Léa-Lisa Vesterhoff, notre correspondante permanente à Kinshasa, 10h18 à Paris. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Plusieurs questions sur la Somalie après la mort, il y a maintenant 2 semaines, du chef des Chebabs, Ahmed Abdi Godane. Bonjour Jean.
Oui, bonjour Juan.
Bienvenue, vous êtes à Cotonou, au Bénin. On vous écoute.
Oui, c'est à Cotonou. Alors, j'ai appris que les Américains ont abattu le chef des Chebabs somaliens et que ceux-ci ont répliqué par un attentat. Alors, moi, j'aimerais savoir quelle est la stratégie des Américains pour empêcher le retour des Chebabs au pouvoir en Somalie.
Ouais, Godane, le chef des Chebabs, qui figurait tout de même sur la liste américaine des 10 personnes les plus recherchées dans le monde pour terrorisme. Sa tête avait même été mise à prix pour $7 millions. Stéphanie Braquet, bonjour.
Bonjour, bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante des RFI dans la région. On voit bien la mobilisation américaine dans la corne de l'Afrique, Afrique de l'Est, notamment en Somalie. Quelle est la stratégie de Washington exactement en Somalie?
Alors, mercredi dernier, on en a eu une petite idée avec le discours de Barack Obama qui prenait en exemple le Yémen et la Somalie dans ce qu'il nommait des tactiques réussies pour venir à bout des terroristes, en gros des frappes aériennes et le soutien d'alliés locaux. Alors évidemment, cette déclaration a quand même beaucoup surpris puisque la Somalie a longtemps été synonyme d'humiliation pour les États-Unis. En octobre 1993, des soldats américains sont tués et leurs corps traînés dans les rues de Mogadiscio devant les caméras. Donc l'envoi de troupes américaines au sol a été exclu, puisque les États-Unis resteront longtemps traumatisés par cet échec. Et en 2005, un soutien financier à des chefs de guerre locaux pour former une alliance contre le terrorisme et lutter contre l'avancée des tribunaux islamiques se conclut par une défaite absolument cuisante. Donc la stratégie américaine désormais, c'est comme l'a souligné Obama, effectivement, des frappes aériennes qui ont tué Ahmed Godane au début de ce mois, tué Aïro en 2007 ou encore Naban en 2009, et le soutien à bout de bras d'institutions qui restent fragiles et extrêmement corrompues, ainsi que le soutien de l'armée. Donc, à noter qu'en juillet de cette année, des responsables américains ont pour la première fois reconnu que plus d'une centaine de forces spéciales étaient présentes dans le plus grand secret depuis 2007. Mais c'est une présence limitée qui s'accompagne donc de soutien à l'armée nationale somalienne et aux services de renseignement. Les États-Unis ont par exemple mis en place ce qu'on appelle le groupe Alpha. Ce sont des forces spéciales somaliennes qui interviennent sur les opérations délicates, les attaques terroristes notamment. Mais au final, les raids aériens, les drones ne paralysent pas, à proprement parler, les Chebabs. À ce jour, ils ont surtout perdu les grandes villes en raison de l'avancée au sol des troupes africaines de la MISOM, mais ils restent quand même très actifs, ont des cellules dans toute la région. Ils ont montré qu'ils pouvaient frapper où ils voulaient, en Somalie et dans les pays voisins.
Et ils l'ont encore montré la semaine dernière, puisque 12 civils ont été tués et une trentaine de personnes blessées au nord de Mogadiscio. En fait, c'était un attentat suicide contre la force de l'Union africaine. On a bien compris donc que la Somalie, c'était d'une certaine façon un peu la guerre cachée des États-Unis. Vous parliez de raids aériens, d'avions, de drones. Tout ce matériel est stationné à Djibouti et c'est vrai qu'ils n'hésitent pas à mener des raids et à liquider les membres de ce mouvement islamiste, comme les Américains l'ont prouvé il y a encore 2 semaines. Autre question encore sur la Somalie. Brahim, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Stéphanie et bonjour à tous.
Stéphanie Braquewey, notre correspondante dans la région et qui vous écoute.
Oui, bien. Après presque 2 décennies de combat et malgré l'intervention des forces internationales de l'Union africaine, les mouvements Chebab tiennent encore le coup. Bien, à ce sujet, je voudrais savoir quel est le lien entre les Chebab et les autres mouvements djihadistes dans le monde.
Ah, ça c'est une bonne question. Stéphanie Braquewey, ce qu'on sait déjà, on l'a suffisamment dit sur l'antenne des RFI, c'est que les Chebab sont affiliés à Al-Qaïda. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose.
Alors, il faut reprendre l'histoire récente. Hein. En 2009, une vidéo annonçait l'allégeance des Chebab à Oussama Ben Laden. Or, celui-ci a longtemps refusé en fait une union formelle entre les Chebab et Al-Qaïda, tout simplement parce qu'il était préoccupé par l'extrême violence du mouvement, hein, le fait notamment qu'il tuait des musulmans sans distinction. En décembre 2009, une attaque kamikaze à Mogadiscio contre l'hôtel Chameau, dans la réception, dans le hall de réception, ciblant une cérémonie pour des étudiants en médecine, avait particulièrement créé l'effroi. Donc ce genre d'action qui refroidissait, on va dire, Ben Laden. Alors à sa mort, Zawahiri, qui leur était beaucoup plus favorable depuis le début, favorise une union formelle qui est revendiquée au début de l'année 2012. Alors cela dit, depuis cette année, depuis 2014, les données ont considérablement changé avec cette offensive de l'État islamique dans une partie de la Syrie et de l'Irak. Un vaste terrain, des armes sophistiquées, une propagande très active. Donc autant de paramètres qui pourraient rendre un rapprochement potentiellement attractif. Donc depuis début septembre, le successeur de Ahmed Godane a été nommé en quelques jours, hein, ce qui peut laisser croire que les consultations n'ont pas été vraiment exhaustives, ils n'ont pas eu le temps. Donc Ahmed Omar, son successeur, alias Abu Ubaïda, est présenté comme un fidèle des fidèles de Godane, issu d'un clan minoritaire, mais selon les experts, sans véritable aura. Il a des compétiteurs, hein, et récemment, le mouvement a réitéré son allégeance à Al-Qaïda. Mais selon les spécialistes, cette allégeance est contestée et des dissidences pourraient être à prévoir, tout simplement parce que des éléments au sein des Chebab prendraient une alliance avec cet État islamique, correspondant d'ailleurs plus, hein, finalement, par son extrémisme et sa grande violence, à l'action passée des Chebab. Ouais. Alors pour la question d'autres mouvements djihadistes, comme par exemple Boko Haram au Nigeria, il a été montré que les deux mouvements ont été en contact, mais rien n'a prouvé qu'ils soient allés au-delà de ces contacts ou qu'ils aient même coordonné leur tactique jusqu'à maintenant.
C'était passionnant. Merci beaucoup Stéphanie Braquewey. Brahim, on vous souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir appelés. 33 9 693 693 70. Je vous rappelle que certaines des réponses des journalistes des RFI sont publiés en version écrite sur le site internet RFI.fr dans l'Hebdo. L'Hebdo, c'est le magazine de la rédaction internet d'RFI. Et donc, vous allez dans l'Hebdo, vous cliquez sur Hebdo et vous cherchez la rubrique du côté de Cheikh Juan et vous aurez donc quelques-unes des réponses en version écrite. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Juan.
Grande journée pour vous. Hein. Vous êtes le chef du service des sports d'RFI. Vous êtes déjà là dans ce studio ce matin. Vous serez ce soir, évidemment, au micro d'RFI pour une soirée spéciale Ligue des Champions avec notamment Olivier Pron qui sera à Amsterdam. Vietnam, c'est ça ?
Et oui, parce que c'est les débuts de la Ligue des Champions. On sait que partout dans le monde, on suit avec passion cette compétition. Donc, on voulait marquer le coup. Et je pense que nos amis africains, notamment, se passionnent pour... Oui. Pour ces équipes qui disputent la Ligue des Champions et ils seront gâtés.
Voilà, Olivier Perron, donc en direct d'Amsterdam pour Ajax PSG et Alejandro, vous serez aux côtés d'Antoine Grenier. Je vais me faire le porte-parole de Midas. Plus aucune ligne, me dit-on, ne passe avec Lomé au Togo. Bon, alors, on va parler du Real Madrid. Midas nous dit, si je retrouve sa question, mais comment expliquer les mauvais résultats du Real Madrid? Ils sont décevants en ce début de saison. Il a plusieurs questions. Donc d'abord, mauvais résultats. Alors c'était vrai jusqu'à dimanche dernier. Hier soir, ils ont fait une belle entrée en matière en Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'en championnat, il y a un vrai problème aujourd'hui. Le Real est 13e.
3 matchs, 2 défaites, dont une à domicile face à l'Atlético Madrid, une autre face à la Real Sociedad. C'est vrai que ces résultats sont très décevants. Alors, pour l'expliquer, il y a plusieurs raisons. Déjà, le cœur du jeu du Real a changé, puisque le Real a favorisé le départ de 2 joueurs qui avaient été très importants la saison dernière, Xavi Alonso et Angel Di Maria. Donc ces 2 joueurs ont été bien sûr remplacés par des plus jeunes. Par des joueurs aussi très médiatiques, James Rodriguez qui venait de Monaco, Toni Kroos, champion du monde avec l'Allemagne, mais c'est pas le même profil des joueurs. En fait, si vous voulez, Real Madrid, c'est lui qui décide les recrutements, c'est le président Florentino Pérez. Il consulte très peu, pour ne pas dire pas du tout, l'entraîneur, Ancelotti, qui est là pour se débrouiller avec les arrivées, les départs, etc. Il est vraiment là pour essayer de faire jouer ensemble tout ce beau monde. Et Florentino Pérez aime les joueurs très offensifs. Donc il estime qu'il n'y a pas de problème pour dépenser des sommes très importantes pour faire venir des joueurs très offensifs. Mais il faut aussi des joueurs qui court après le ballon, qui récupère, qui tacle. Et pour lui, ses tâches sont moins nobles et, grosso modo, n'importe qui pourrait les faire, et y compris les jeunes qui viennent du centre de formation. En tout cas, il refuse systématiquement de remonter les salaires des joueurs qui s'occupent de ça. Et ça pose un vrai problème à Carlo Ancelotti, qui a trop de joueurs offensifs et pas assez de joueurs dans l'entrejeu. Alors, dès qu'il y a une équipe qui est capable de faire le poids, elle peut facilement déstabiliser l'équipe. Et même hier, c'est vrai que le Real a gagné 5-1 face à l'équipe de Bâle,
oui.
Mais l'équipe de Bâle a marqué un but, et alors qu'ils étaient menés 4-1, ils ont eu 2 occasions énormes, un arrêt de Casillas et un tir sur le poteau. S'ils avaient marqué ces 2 buts, le Real aurait eu chaud en fin de match.
Ouais, vous parliez justement d'Iker Casillas. Midas, notre auditeur, nous dit, mais d'où vient le malaise entre les supporters et Iker Casillas, le gardien de but? C'est vrai que, je crois que c'était en début de semaine, avant-hier, Iker Casillas sifflé par des supporters. La même chose samedi au stade Santiago Bernabéu.
Ça fait 15 ans que Casillas est au Real Madrid et a toujours été une idole pour les supporters. Mais il y a 2 ans, avec Mourinho sur le banc, Mourinho avait fait de Casillas sa bête noire un petit peu. Il l'avait accusé d'être un cafteur, de dénoncer des choses qui s'est passées dans les vestiaires, dans la presse.
C'est pas bien de cafter.
De pas être un bon gardien, etc. Et du coup, une partie du public l'a pris en grippe. Et aujourd'hui, comme Casillas a connu un été difficile avec l'Espagne et tout ça, il est très observé, et à la moindre petite chose, une partie des supporters s'en prennent à lui.
Ça veut dire que ses jours sont comptés au Real Madrid?
Ça veut dire que, de toute façon, à la moindre grosse erreur, c'est sûr que sa situation pourrait se compliquer, d'autant que le Real a recruté Keylor Navas, 10 millions d'euros, qui est pour l'instant sur le banc, mais qui pourrait à tout moment devenir le gardien du Real.
10 millions d'euros pour être assis sur le banc, ça fait cher.
Oui,
donc
mais
peut-être
Real
prochainement sur le terrain.
Voilà, Midas, en tout cas, sera ravi de voir que son prénom est d'actualité au Real Madrid.
Effectivement. Merci beaucoup, Alejandro, d'être venu. À ce soir, donc, à partir de 18h45, temps universel, pour la soirée spéciale Ligue des Champions. Bonne soirée, bon courage, Alejandro.
Bonne soirée, au revoir.
Merci à vous. Restez avec nous tout de suite, le journal, et on revient dans 10 minutes pour vos réactions, vos témoignages sur la lutte contre l'épidémie d'Ebola.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.